Voilà. Bien, si vous pouvez trouver Matthieu chapitre 5 dans votre Bible, dans la dernière partie de votre Bible, c'est la page 4, si vous avez la même version que moi. Matthieu chapitre 4, et je relis les béatitudes. Et nous serons amenés à méditer sur le verset 8 aujourd'hui. Voyant la foule, Matthieu nous dit, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, c'est-à-dire de droiture, d'intégrité, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Voilà la béatitude qui nous concerne ce matin. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, le faiseur de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Jésus donne une prophétie, hein, il dit que ça va se passer. Donc ça se réalise, ça s'est réalisé souvent dans ma vie. Les gens se moquent de nous à cause de notre croyance en Jésus-Christ. Si j'étais peut-être bouddhiste ou hindou, on ne dirait rien. Mais le nom de Christ attire bizarrement beaucoup de rejets. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je vous rappelle tout simplement que Jésus est en train de brosser un portrait du vrai citoyen du royaume de Dieu. Et toutes ces qualités, c'est un moyen de décrire la disposition, la manière d'être, cette manière transformée d'être du chrétien. À cause de sa conversion, à cause de la nouvelle naissance, ce qu'il devient. On ne peut pas sélectionner, moi je vais être en pauvre esprit, toi tu es miséricordieux, toi tu es persécuté à cause du Christ. Mais non, toutes ces qualités sont propres à tous les chrétiens, même si aucune qualité n'est à nous parfaitement. Donc, nous arrivons à cette béatitude, bienheureux ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur. Je voudrais en introduction vous dire quelque chose au sujet du cœur, et puis nous allons suivre le plan que vous avez. Le cœur. Ce n'est pas l'organe qui fait circuler le sang. Le cœur, dans le langage biblique, vous le savez bien, c'est une métaphore pour le siège de la personnalité humaine. D'accord ? C'est cette partie de nous où on a nos désirs, nos pensées, nos motivations, etc. Vous pouvez penser au cœur comme un œil. D'accord ? C'est avec votre cœur que vous allez être ouvert, réceptif, parce que l'œil, n'est-ce pas, c'est un organe réceptif. Il ne projette pas. Il ne produit pas, il reçoit. C'est pour ça que Jésus a comparé le cœur à l'œil dans le passage que nous avons lu en Matthieu 6. Okay? La Bible dit, en Romains 10, c'est avec le cœur qu'on croit jusqu'au salut. D'accord? C'est avec le cœur qu'on reçoit la bonne nouvelle de la vérité, qu'on reçoit ce que Dieu nous dit, nous révèle comme étant vrai, ce qu'il a fait, ce qu'il est, ce qu'il offre, on accepte la vérité et c'est avec le cœur qu'on est réceptif ou pas. Deuxièmement, le cœur est aussi comme une boussole. Comme une boussole, parce que le cœur a aussi une fonction de peser et d'assigner une priorité. Et vous avez remarqué que nous abusons les boussoles, nous ne les utilisons pas bien. Parce que la boussole, qu'est-ce qu'il fait? La boussole, l'aiguille de la boussole pointe toujours à un seul endroit, au nord. Et nous l'utilisons pour aller parfois à l'est ou à l'ouest ou à, n'est-ce pas? Mais lui, il est en train de pointer vers l'endroit de la Terre où la force magnétique est la plus forte, n'est-ce pas? Il retrouve ce qui est le plus fort, il pèse et il va vers le plus fort. Et votre cœur est comme ça, c'est pour ça que nous avons lu que là où votre trésor se trouve, là est votre cœur. Parce que votre cœur est toujours en train de prioritiser, de peser. Qu'est-ce qui est meilleur? Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Ah, c'est ça que je veux plus dans la vie. D'accord? Le cœur a cette sorte de fonction. Ok? Imaginons un humain dont le cœur n'était pas comme ça. Et toutes les possibilités, toutes les choses, tous les désirs que vous aviez dans le cœur avaient la même valeur. Vous ne pourriez jamais faire un choix. Vous serez toujours dans la confusion. Je veux ça autant que ça, autant que ça, autant que ça. Mais heureusement, le cœur a une fonction de trier, de peser et de dire c'est ça le meilleur. Okay? Donc le cœur est comme ça. Troisièmement, le cœur est comme une source. Un œil réceptif, une boussole qui pèse et qui montre le plus, le suprême, et une source. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 4, Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. En d'autres termes, ton cœur n'est pas seulement réceptif, mais productif. Tu es toujours en train de produire plein de désirs, de pensées avec ton cœur. C'est une usine à désirs. Ah, oh, je veux, je veux, je veux, je veux, je pense, je veux. Et donc, le cœur de l'homme a cette capacité donc d'avoir plein d'affections, plein de désirs, plein de vœux. OK? Donc, une dernière chose en introduction. Jésus nous dit, le Seigneur nous dit que bienheureux ceux qui ont le cœur pur, pas le comportement pur. On doit avoir un comportement pur aussi, mais il dit le cœur pur. Pourquoi est-ce qu'il dit le cœur pur? Sans doute, il a une pensée envers les pharisiens. Et sur le dos de votre feuille, vous avez plusieurs passages. Si vous regardez le premier, Jésus dit à un moment donné, Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez, hein, voilà pureté, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Jésus est en train de parler de la fausse piété, de la fausse religiosité des pharisiens. Il dit, vous avez un comportement extérieur, le plat et la coupe, qui est impeccable. Vous êtes toujours là à la synagogue, vous êtes en train de prier, mais au-dedans, dans le cœur, les motivations pour tout cela, les raisons, vous êtes plein de rapines. D'accord? Et Jésus montre que le vrai citoyen du royaume des cieux, la personne qui connaît vraiment Dieu, c'est celui qui a plutôt le cœur, les motivations, en fait, cette partie de ta personnalité est devenue sincère et honnête et réelle. OK? Donc c'est pour cela que Jésus veut mettre l'accent sur le cœur. OK. Donc, nous devons, et je pense que je ne vais pas finir mon plan aujourd'hui, mais nous allons quand même nous demander au moins qu'est-ce qu'un cœur pur? Je pense, chers amis, qu'il n'y a rien de plus important que cette question-là. Parce que Jésus est en train aussi de nous dire que ceux qui n'ont pas le cœur pur ne verront pas Dieu. Ne verront pas Dieu. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que un cœur pur, dans ce passage, ne signifie pas un cœur sans péché. Et tout le monde dit, ouf. Parce que si Jésus voulait dire, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu, personne ne verrait Dieu parce que personne n'est sans péché. C'est Jésus qui le dit souvent. Hein? Donc le cœur pur ne signifie pas le cœur sans péché. Ok. Nous savons qu'il y a donc des gens sur terre qui ont un cœur pur, mais qui n'ont pas un cœur sans péché. Regardez le passage numéro 3. 2 Timothée 2, 22, Paul dit, fuis les passions de la jeunesse. Il parle à son ami Timothée, recherchez la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc il y a des gens qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur et Paul dit à Timothée, va les trouver et soyez avec eux. Okay? Donc ça existe. Je vais sauter certains passages pour ne pas être trop long. Mais ok, donc il y a des gens sur la terre qui ont un cœur pur et ce cœur n'est pourtant pas sans péché. Donc, comment comprendre le cœur pur? Sur le point numéro 1 que vous avez sur le plan, donc vous avez le grand 1, puis le sous-point A et ensuite le point 1 et 2, sous-point 1 et 2. La Bible lie la pureté de cœur à la sincérité. La Bible lie la pureté de cœur. Tu as un cœur pur si tu es sincère lorsque la vérité vient vers toi, lorsque Dieu t'envoie sa vérité sur lui-même et lorsque tu es ouvert et réceptif à cette vérité. Ok? Dans ce sens, un cœur pur signifie un cœur vrai, un cœur authentique, un cœur sincère, à l'opposé d'un cœur hypocrite, à l'opposé de la duplicité. J'y arrive, hein, c'est un peu abstrait pour le moment, mais attendez avec moi. Le cinquième verset, regardez bien, vous allez voir, je vais lire les trois passages, 5, 6 et 7 sur votre feuille, et tout ce que je veux que vous remarquiez, c'est qu'un cœur pur est très souvent lié à la sincérité dans la Bible. Regardez, le cinquième. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Donc un cœur pur, c'est chez quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Sixième passage. Après avoir purifié vos âmes, donc vous voyez pur, hein, purifier vos âmes, dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère. Aimez-vous les uns les autres. Septième passage. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Je ne vais pas commenter ces versets, on n'a pas le temps d'expliquer cela, mais nous pouvons voir sans commentaire qu'un cœur pur, c'est un cœur qui est vraiment sincère. D'accord? Ok. Le point 2, là, la Bible dit que la sincérité d'un cœur pur vient de la foi en Christ et que sans la foi, on a un cœur insincère et impur. Alors là, nous avons quelque chose qui choque, qui étonne, mais je vous déclare que sans la nouvelle essence et sans la foi dans la vérité de Dieu, de Christ et de son évangile, on a obligatoirement un cœur qui n'est pas en fait sincère. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. Et pour cela, il faut qu'on commence par le huitième verset, qui est très important, peut-être le passage le plus important aujourd'hui dans un sens, qui se trouve dans les actes 15, 8 et 9. Je lis. C'est Pierre qui explique comment des non-juifs sont devenus croyants en Jésus-Christ. Okay? Il explique aux juifs que les premiers païens se sont convertis. Il dit, « Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. » Donc voilà des gens qui écoutent l'évangile un jour. Et Dieu leur change le cœur, il leur donne à voir que c'est vrai que Dieu est ce Dieu qui a envoyé le Christ dans le monde, que le Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur, qu'il est mort, qu'il a payé la peine de nos péchés, que Dieu n'est pas un Dieu sans visage, sans nom, il est bien un Dieu qui se révèle, et c'est ce Dieu-là. Et donc, il leur a donné la capacité de voir et de croire. Et il dit dans ce passage que Dieu a purifié leur cœur par la foi. Comment est-ce qu'ils sont devenus sincères et non plus hypocrites? C'est lorsque la foi dans la vérité est venue dans leur cœur. Je vais vous expliquer pourquoi, mais nous allons quand même lire le 9e passage d'abord. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'est un cœur méchant et incrédule, je pourrais dire un cœur impur et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. La Bible nous dit ceci, chers amis. La Bible dit que si vous êtes quelqu'un avec un cœur incrédule, que vous avez un cœur menteur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sincère, même si vous le pensez. Vous êtes hypocrite et dans votre cœur, vous faites preuve constamment de duplicité. Je vais essayer de vous prouver cela. Donc, on va lire les passages 10 et 11 d'abord. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La phrase signifie que Dieu parle à tous les hommes sous le ciel. Il se révèle dans sa création, dans l'ordre de la création, dans sa grandeur, dans sa beauté. Et il dit tous les jours à tous les hommes, par un message que tout le monde voit, qu'il y a un Dieu. Parce que toutes ces choses tellement ordonnées, complexes, bien faites, beaux, immenses, ne peuvent pas être le fruit d'un hasard. C'est une ânerie complète que de le croire. D'accord? Donc Dieu révèle, comme un artiste révèle qu'il est par la beauté de son portrait, Dieu fait un monde pour montrer qu'il est. Alors voilà quelqu'un qui dit qu'il est athée. Il y a un grand problème, n'est-ce pas? Il y a un grand problème parce que il y a un message assez clair qui est complet. On ne peut pas se dérober de la certitude de l'existence de Dieu, de sa grandeur, de sa sagesse, de sa bonté, parce que c'est constamment révélé et dit. Mais voilà une personne qui dit que Dieu n'existe pas. Quel est son problème? C'est que son cœur n'est pas sincère. C'est que son œil n'est pas ouvert. Il ne laisse pas passer la lumière. Il veut que Dieu n'existe pas pour certaines raisons, ou il veut qu'un Dieu existe qui n'a pas de nom, qu'on ne peut pas connaître, pas un Dieu proche, mais un Dieu lointain. Et quoi qu'il en soit, il ne reçoit pas la vérité parce que son cœur ne veut pas de cette vérité. Et donc, il est en train de croire quelque chose, Dieu n'existe pas, croire cette chose qu'il sait est faux. Et toute sa vie, il vit, et sa vie est basée sur cette croyance que nous vivons dans un monde créé par le hasard, où Dieu n'existe pas. Et donc, ça a beaucoup d'implications pour sa vie, et il sait que ce n'est pas vrai. Il se convainc que c'est vrai, il se leurre, il se trompe, Il retient, il refoule en lui la vérité, mais il ne peut pas jamais être sincère à un seul jour, à une seule heure de sa vie, parce que ce qu'il croit, au fond, il sait, il voit que ce n'est pas vrai. D'accord? Et la vérité a la fâcheuse tendance de revenir et il faut qu'il le refoule encore, n'est-ce pas? Et donc, ça peut être une existence misérable quand quelque chose est vrai et tu veux vivre en dissonance avec cela tout en le sachant. Voilà, donc un cœur méchant et incrédule, parce que ce cœur est en train d'agir avec duplicité. Je crois qu'on va lire les passages 10 et... pardon, j'aurais dû vous lire le passage plutôt 11. On n'a même pas fini le 10, je vais relire le 10 et puis le 11. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Et puis, un peu plus tard dans le passage, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Donc, ils vivent toute leur vie basée sur un mensonge, croyant un mensonge, parce que ça les arrange mieux. Donc, il est impossible qu'ils soient sincères avec un mensonge au fondement de leur vie. Le passage suivant nous dit « L'avènement de l'impie, ça parle de la fin du monde et de l'Antichrist, l'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Donc, il y a des miracles mensongers qui viennent du mauvais côté. Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez qu'il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Ils n'ont pas voulu recevoir et accepter l'amour, l'affection, l'ouverture à la vérité d'un Dieu qui est là et qui a un nom et qui s'est révélé. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est ce cœur qui est hypocrite quelque part, qui est hypocrite. Et même si ces personnes sont très très sincères ailleurs, parfois dans des détails de la vie, ok, je ne m'en disconviens pas. Il y a des gens qui sont extrêmement sincères dans des détails, mais tout cela est bâti sur une structure de mensonges, d'accord? Et par rapport à ce qui est fondamental. Maintenant, je veux vous montrer comment ça fonctionne. Que la personne soit athée ou qu'il soit dans une fausse croyance, une fausse religion, d'accord? Ça nous mène à vivre toute la vie avec un cœur insincère parce qu'on sait que ce n'est pas vrai, mais on prétend que c'est vrai. Et ça nous amène à vivre d'une manière malhonnête en trois domaines. Le premier domaine, c'est on vit de manière malhonnête par rapport à Dieu lui-même. Je viens d'en parler, je ne vais pas dire plus. Okay? Donc, on fait semblant que Dieu est quelque chose qu'il n'est pas, et on sait qu'il n'est pas ça, ou qu'il n'existe pas du tout. Mais deuxièmement, ça nous mène, si on n'est pas croyant en Christ, ça nous mène à être malhonnête et hypocrite vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes. J'ai fait un baptême dimanche passé à Grenoble, et le jeune homme qui est ingénieur, qui vient de se convertir, il doit avoir une trentaine d'années, il s'appelle Vincent, il nous a donné un petit témoignage avant d'être plongé dans l'eau, et c'était assez frappant, sa famille était présente. Sa famille était présente et il a cité ce verset. Il a dit « Voilà ce que j'étais, la manière dont j'ai vécu avant de, de rencontrer Christ il y a peu de temps. Je vous lis juste le passage où Paul parle de personnes qui sont remplies de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, pleines d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Il a fait une pause, il a regardé vers sa maman et son papa. Il a dit rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans pitié, etc. Alors, à la fin de tout ça, il a dit, vous qui êtes là et qui me connaissez, vous savez très bien que beaucoup de ces termes décrivent la vie que j'ai vécue. Et après, sa maman dit, non, tu es un gentil garçon, quand même. Et vous voyez, on est amené à vivre dans un mensonge vis-à-vis de nous-mêmes. Nous sommes tous des gentils garçons et des gentilles filles, et on ne prend pas le temps de nous regarder vis-à-vis de Dieu et de son miroir, de sa norme, comment il nous voit, et de vraiment vivre sincèrement, authentiquement devant Dieu. Donc, nous voyons dans le monde incrédule que les âmes ne veulent pas faire face à eux-mêmes, ne veulent pas regarder l'homme tel qu'il est. Souvent, j'ai des gens qui me parlent de la doctrine chrétienne du péché, que l'homme est de nature dépravée, et ils disent « Non, l'homme est bon !» Et j'ai envie de dire « Mais pourquoi est-ce que vous voulez mentir tellement ? Vous ne lisez pas les actualités pour comprendre que dans les affaires des nations, dans les affaires du mariage, dans les affaires de fréquentation, de voisinage, partout où on va, on voit que l'homme fait preuve de mauvais comportements, de mauvaises pensées, d'égoïsme, d'orgueil, d'immoralité, et ainsi de suite. Nous sommes amenés à vivre dans une hypocrisie vis-à-vis de nous-mêmes. Troisièmement, nous sommes amenés à vivre dans un mensonge constant, mais constant. Toute la vie est un mensonge pour l'incrédule vis-à-vis de l'éthique. C'est-à-dire, nous avons tous des pensées vis-à-vis de ce qui est bon et mauvais et ce qui nous amène vers la bonne vie, vers le vrai bonheur. Mais lorsqu'on ne croit pas à Dieu et à ce qu'il dit sur ces choses, on va inventer le contraire. Et lorsque nous regardons les pensées des hommes au sujet de l'éthique, nous voyons que les hommes défendent bec et ongle l'avortement, de tuer les enfants qui ne sont pas encore nés. Ils défendent l'infidélité conjugale, même carrément la polygamie, ça séquentielle, ça devient j'ai une femme mais j'aurai une autre plus tard, ça c'est normal, tout le monde le fait, je peux pas être heureux sans tromper ma femme, enfin où que vous alliez, vous voyez que les hommes sont en train de vivre un mensonge, ils savent que ça c'est pas vrai, au moins pour beaucoup de ces choses, je suis d'accord qu'ils deviennent tellement stupides qu'ils peuvent croire que certaines de ces choses sont vraies, mais au fond, ils savent que leur éthique est quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Parce qu'ils savent que quand quelqu'un d'autre leur font les mêmes choses qu'ils veulent faire, ils disent « c'est pas juste, c'est pas bien ça ». Donc, nous voyons que le cœur pur, tout simplement, c'est le cœur maintenant qui vit dans le vrai, dans la sincérité, qui, illuminé par la vérité de Dieu et du Christ, maintenant voit Dieu tel qu'il est, voit le soi tel qu'il est, et voit la manière vers la bonne vie telle que Dieu nous le donne. tel que Dieu nous dit, c'est ça qui mène à une bonne vie. Ok. Quand quelqu'un est converti, et je crois que je vais m'arrêter à peu près là, et la prochaine fois, on verra la deuxième partie du verset, ils verront Dieu. Mais donc, quand quelqu'un est converti, qu'est-ce qui arrive? Pour la première fois, il commence à vivre avec un cœur complètement authentique et simple et sincère. Parce qu'il n'y a rien qu'il est en train d'essayer de ne pas laisser passer dans sa pensée. Non, 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 je ne veux pas parler de ça. J'avais, il y a deux ou trois années, plusieurs rencontres avec un professeur de philosophie à l'université de Vancouver. Il est venu faire une année sabbatique à Puy-Loubier. On vivait à Puy-Loubier à l'époque et par des circonstances un peu étonnantes, on s'est croisés. Et il m'a demandé de commencer à venir chez lui et le rencontrer tous les vendredis matins. Donc tous les vendredis matins, je me rendais chez ce professeur qui a écrit des livres de philosophie et qu'il était en train d'écrire deux livres cette année-là. Et il voulait me parler de la Bible et de l'Évangile. Et il m'a dit un livre que il a dit qu'il était agnostique avant, athée agnostique, mais que quelque chose s'est passé dans sa vie, qu'il savait maintenant que Dieu existait. Et donc il me posait plein de questions. Il m'a dit, je suis en train d'écrire un livre et je pense le titre va être quelque chose comme ceci. Tu as le droit de poser cette question. Pourquoi est-ce qu'il a écrit ce livre? Parce qu'il a dit, dans les milieux philosophiques au Canada et en Occident en général, on n'a pas le droit, dans les cours de philosophie, d'évoquer même l'idée de Dieu, de l'existence de Dieu, comme la solution à certaines questions métaphysiques. D'accord? Et il a dit, il y a un consensus que toutes les solutions possibles sont possibles, sauf ça, on n'en parle jamais. Et donc, il allait écrire un livre pour dire que non, j'ai découvert que la philosophie ne peut, on ne peut trouver aucune cohérence dans une philosophie si un Dieu éternel est bon et qui se révèle n'existe pas. Il y a des problèmes philosophiques qui ne peuvent pas se résoudre. Mais voilà donc un monde qui vit dans le mensonge constamment. Parce que vous n'avez même pas le droit de l'évoquer. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'évoquer une seule chose? Toutes les autres, ça va. Vous voyez? On démasque un mensonge incroyable, une insincérité incroyable, une duplicité qui fonde tout le travail philosophique des facultés en Occident. C'est ça que je suis en train de dire. Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas hypocrites en sachant qu'une chose est vraie et en disant, ce n'est pas vrai, on n'en parle pas. Le cœur pur est celui qui maintenant, qui reconnaît la vérité, qui est ouvert, qui est simple, qui croit. Et sans la croyance, vous voyez qu'on est dans le déni. Sans la croyance, on est dans le déni. Je finis juste en disant que ça influence beaucoup notre éthique aussi, parce que je sais que quand moi je me suis converti à Christ, mon éthique a changé complètement et tout de suite. Parce que si Dieu est là, si Christ, s'il est un Dieu qui m'aime tellement, qui meurt à la place de moi pour me sauver de mes péchés, parce qu'il est saint et il ne pardonne pas le péché, il pardonne le pécheur, mais il punit le péché. Si le Dieu de la Bible est vrai, alors là, je dois changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et la voie vers le vrai bonheur n'est pas de me glorifier, n'est pas la sensualité, n'est pas plein de choses que je croyais. La richesse matérielle ou le pouvoir, pas du tout. Pas du tout. Tout cela, c'est rien. Et donc, je vivais dans tous ces mensonges, et la Bible les appelle, je ne vais pas vous lire, mais vous pouvez regarder dans les passages, la Bible les appelle des convoitises trompeuses. D'accord? Le monde vit selon des convoitises, des désirs forts, mais qui sont trompeuses. Et ça rejoint notre problème d'avoir le cœur pur, c'est de ne pas vivre dans la tromperie, dans le mensonge. Et donc, si nous pouvons juste en rester là, le cœur pur, c'est le cœur maintenant qui cesse de se mentir et de mentir à Dieu, mais qui reçoit, comme un œil qui est complètement ouvert, qui reçoit la vérité que Dieu lui envoie. Et qui dit, tout ce que tu me dis, je le crois. Et je ne fais plus de jeu, je ne vis plus dans la prétence, mais je veux vivre dans la vérité. Donc ça, c'est le début de du changement radical. Même si, en tant que chrétien, tu as plein de péchés, tu as des mauvais désirs, et dans ce sens, tu as le cœur impur, au moins, tu as le fondement tellement pur, parce que tu es prêt à accepter toute la vérité sur tes mauvais désirs, et là, ça va changer tout le reste, tôt ou tard. Donc, mon devoir, là, c'est simplement de vous demander, est-ce que vous avez ce cœur pur parce que ce cœur est croyant? Tu as accepté ce que Dieu dit sur la réalité, lui-même, son Fils, la manière de revenir à lui, ça c'est le commencement. Il a purifié leur cœur par la foi. Sans la foi en Christ Jésus, vous êtes obligés de rester dans le mensonge et dans l'hypocrisie. C'est dur à dire, hein? Et je suis hypocrite moi-même, hein? Je suis dans plein de détails de ma vie. Mais au moins, par la grâce de Dieu, ceci est en place, c'est que mon cœur maintenant veut vivre dans le vrai, dans ce qui est véritablement là. Et ça peut être le cas pour vous aussi. Vous ne pouvez pas changer votre cœur vous-même, c'est impossible. Mais la Bible dit que Dieu purifie le cœur des hommes par son évangile, par Christ, par l'annonce de sa croix. Et la réconciliation avec lui. Donc, je vous encourage à lire les versets qui sont là et on regardera le reste du verset la prochaine fois. Bien, nous allons chanter avant d'avoir la scène ce matin. Veuillez trouver dans le recueil bleu le numéro 196, Ô Jésus, Prince glorieux. Cent quatre-vingt-seize.
Tu vas du ciel pour nous servir, pour donner ta vie et l'offrir en rançon pour nous affranchir dans ta grâce. ton sang fut répandu pour nous, et tu nous dis, buvez-en tous, la vie éternelle est à vous, quelle grâce. Ô Jésus, toi qui fus livré pour nous méchamment torturés, que jamais tu sois adoré pour ta grâce.
La Bible nous dit que Satan a tenté Adam et Ève dans le jardin par rapport à quelque chose à manger. Et la tentation n'était pas, comme certains veulent se moquer et dire, simplement au sujet d'une pomme. La tentation était la tentation la plus fondamentale qui puisse être. Parce que Satan voulait tenter Adam et Ève de croire que Dieu n'était pas bon. Que Dieu leur donnait à manger de tous les arbres du jardin, mais leur privait d'un arbre qui leur donnerait la sagesse du bien et du mal. Et donc, Satan va à la racine. S'il peut les convaincre que Dieu n'est pas purement amour, ils vont certainement se détourner de ce Dieu qu'ils ne croient pas être pour eux et bon. Nous sommes devant quelque chose à manger. Et c'est le Christ qui nous a donné par sa mort sur la croix. Il est venu du ciel, Dieu lui-même, le Créateur, s'est fait homme pour que nous puissions manger ce repas qui est symbole du salut. Est-ce qu'il nous a privés de quelque chose de bon? Est-ce qu'il n'est pas un Dieu qui donne tout? Qui donne tout? Il se donne. Il se livre. Et dans ce pain, nous avons l'image du corps même de Jésus de Nazareth qui est cruellement battu et mis à mort. Et dans cette coupe, nous avons le symbole de son sang qui a coulé il y a 2000 ans sur ce mont du calvaire, lorsqu'il se livre, mais complètement. Il ne retient rien pour notre salut. Et nous avons dans la mort de Jésus-Christ la révélation que le Dieu qui est vraiment là, ce n'est pas un Dieu qui nous prive de quoi que ce soit. Dieu a tellement aimé le monde, dit la Bible, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est le vrai Dieu. Paul nous donne cette instruction sur comment célébrer la scène. Il dit ceci, « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré et pris du pain. » Et après avoir rendu grâce, le rompit, comme son corps allait être rompu, et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Il pense à son sang qui va couler sur la croix. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. C'est-à-dire, vous annoncez la mort du Christ comme le don de Dieu. Comme la seule manière de revenir à Dieu. Comme la source du salut. Jusqu'à ce qu'il vienne. Et comme je dis souvent, quand j'ai bien dressé la table, nous n'avons rien apporté sur cette table, Le Seigneur nous donne son corps, son sang. Nous ne contribuons rien. Et nous avons donc dans la scène une image du salut. Je ne fais rien pour que Dieu m'accueille de nouveau. Il a fait tout pour moi. Le mouvement de la scène pour l'Église catholique est comme ça. Ils disent que c'est une offrande. Ils lèvent la pain, le prêtre dit qu'il resacrifie le Christ et que Christ n'a pas fini. Chaque dimanche, il doit être recrucifié encore parce qu'il n'a pas fini son travail. Dans le Nouveau Testament, il dit que Christ est mort une fois pour toutes. Il est achevé. Nous ne sommes pas en train de donner quelque chose à Dieu aujourd'hui dans la scène. Ce n'est pas une offrande. Dieu nous donne quelque chose. Il nous donne son Fils. Il nous donne le salut. Il nous donne un don gratuit et il le donne aux pécheurs. Et nous glorifions son nom. Si vous êtes chrétien et vous vous êtes converti, vous avez été baptisé et vous êtes dans une attitude, une disposition à prendre la scène, je vous invite à prendre au moment où je passe et de prendre ce pain par la foi, de vous rappeler que ça, c'est un symbole, que ça symbolise le fait que Christ vous donne son corps, vous donne le salut par sa mort et que vous vous appropriez, vous acceptez et vous croyez dans ce sauveur et dans ce salut. Si vous allez prendre la scène, veuillez vous lever. Si vous n'allez pas prendre, restez simplement assis et regardez cette fois si tu peux jouer. Nikki, merci. Nous avons tous erré comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui le péché de nous tous. Nous ne mettons qu'une coupe sur la table, parce que c'est ainsi que Jésus a fait. Tout le monde a bu de la même coupe. On voit un symbolisme de l'unité des chrétiens, n'est-ce pas? Mais parfois on a la grippe, on ne veut pas. Donc vous pouvez prendre de la coupe commune ou des petits gobelets. Mais quand vous prenez, rappelez-vous que Jésus-Christ lui-même ordonne ce sacrement. C'est un sacrement saint, c'est un symbole, mais le symbolisme est ordonné par le Seigneur. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, alliance qui me lie à vous pour toujours et pour la vie éternelle. Ce que j'ai fait crée une alliance éternelle. Nous buvons par la foi en signe de notre foi dans le sang de Christ. Gloire à Dieu, l'Écriture dit que le sang de Christ purifie de tout péché. Amen. Nous allons rechanter le dernier verset du 196 pour terminer le culte. Vous pouvez tous vous lever, s'il vous plaît. les deux derniers versets, je pense. Oui, 3 et 4.
Ton sang fut répandu pour nous, et tu nous débuvais en tous la vie éternelle. T'avoue quelle grâce. Ô Jésus, toi qui fus livré pour nous, méchamment torturé, qu'à jamais tu sois adoré pour ta grâce.
Notre Seigneur Jésus-Christ, combien nous te bénissons, toi qui viens bientôt pour nous amener dans ton royaume éternel. Nous, au milieu de ce monde fragile, éphémère et perverti, nous-mêmes, autrefois criminels contre toi, et même aujourd'hui encore bien corrompus, nous louons ton nom pour ces souffrances atroces, d'avoir pris notre place, notre péché, d'avoir satisfait la justice, pour que Dieu puisse être à la fois juste et le justificateur de celui qui a foi en Jésus-Christ. Nous te louons, notre Seigneur, pour cette vie éternelle que nous attendons avec hâte. En ton nom. Amen. Bon dimanche.